Vous écoutez, on lit pour vous.
Indignez-vous. Vraiment? Un texte de François Cardinal paru le 3 mai 2026 dans la presse. Récemment, la firme Léger a dévoilé le top 10 de son palmarès de réputation des entreprises. Dans le classement du Québec, on retrouve notamment le Canadien de Montréal, Jean Coutu et le Cirque du Soleil, mais pas de grands médias d'information. J'ai donc cherché à en savoir plus en demandant à Léger de lever un coin de confidentialité de ce rapport offert à ceux qui sont prêts à le payer. J'y ai découvert du bon, et du très bon, même. Le bon, la réputation des médias au Québec demeure globalement solide, m'a expliqué Sébastien Dallaire, vice-président exécutif chez Léger. Le secteur affiche un gain de 2 points depuis 2025. Dans une période où presque toutes les institutions perdent du terrain, c'est une nouvelle positive. Le très bon? On note un contraste entre la stabilité des résultats pour les médias et la baisse marquée de la réputation des plateformes technologiques et des médias sociaux. Les Québécois font la distinction entre les médias d'ici et les géants de la technologie. Ce qui mène à une curieuse dynamique. Pas moins de 65% des Québécois s'informent plusieurs fois par jour sur les médias sociaux, mais à peine 20% leur font confiance. On consomme, mais on ne croit pas. Ce paradoxe est au cœur de tout ce qui se joue dans notre métier en ce moment. Les gens ont développé un lien et des rituels avec les réseaux, sans être dupes. Ils sont conscients de l'impact majeur des médias sociaux sur leurs opinions, observe Sébastien Dallaire, mais ils ne font généralement pas confiance à ce qu'ils y voient, entendent ou lisent. Et en revanche, ils font confiance aux grands médias, plus au Québec qu'à peu près n'importe où dans le monde. Dans le classement des 425 entreprises, on retrouve ainsi tous les médias généralistes, Radio-Canada, 25e, La Presse, 62e, Nouveau, 88e, Le Devoir, 99e, le groupe TVA, 118e, le Journal de Montréal, 175e. Et tout en bas du classement, il y a les Instagram, 203e, Meta, 342e, Snapchat, 418e, TikTok, 423e et, au tout dernier rang, X, 425e. L'écart est donc significatif entre la consommation et la confiance. Par pur hasard, j'étais dans ma tête à réfléchir aux résultats de l'enquête Léger 2 lorsque Audio m'a suggéré l'entrevue de l'ancien journaliste Jean-François Lépine à l'émission « Tout peut arriver » le week-end dernier à la radio de Radio-Canada. Une entrevue fort intéressante avec un grand reporter ayant couvert le monde pendant des décennies. Il a tracé un portrait dur mais lucide du monde médiatique d'aujourd'hui. Son anecdote de l'aéroport était éloquente. Il a récemment croisé un homme qui lui a confié s'ennuyer du journalisme posé. Je savais ce qu'il voulait dire. Au fond, il disait « On s'ennuie des gens comme vous. C'est toujours ça qu'ils disent. » Je comprends cette nostalgie qui révèle un certain malaise à l'égard de l'écosystème médiatique d'aujourd'hui. Je le sens d'ailleurs dans les courriels des lecteurs qui sont nombreux à demander qu'on offre moins de bruit et plus de fond, moins de cris et plus de faits, moins de fureur et plus de contexte. C'est juste et ça mérite d'être dit. Je vous parle de l'enquête Léger et de l'entrevue de Lépine dans un même texte, car on peut pousser la réflexion plus loin en superposant les deux. Dans l'échange de 25 minutes, Jean-François Lépine a dit quelque chose qui m'a laissé songeur. En parlant des journalistes, mais aussi de la société plus largement, il a dit qu'on ne s'indignait pas assez. Il a donné des exemples des médecins spécialistes et du REM pour reprocher à la société québécoise dans son ensemble de ne plus s'indigner. Et il a visé le traitement médiatique d'Haïti, du Liban et des États-Unis. « On ne s'indigne pas assez de Trump », a-t-il dit. « On ne s'indigne pas assez de ce qui se passe dans ce pays-là. » Personnellement, je ne trouve pas qu'on est chiche en indignation au Québec, surtout pas lorsqu'il est question de Trump. Mais j'évoque ici cette position, car en analysant les résultats de Léger, j'en viens à la conclusion contraire. Le public se lasse de l'indignation, justement. Ce qu'il rejette en se détournant de X, par exemple, c'est cette fureur constante, ce bruit de fond hystérisé. Vos retours à la presse vont massivement dans ce sens. Vous nous demandez davantage de journalisme factuel et d'échanges civilisés. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous ont incités à transformer la section « débat » très pugilistique en « dialogue » plus fécond, il y a quelques années. Résultat, en dosant l'indignation, celle qu'on exprime lorsque c'est nécessaire résonne davantage, justement parce qu'on a diminué le bruit. Ce que les Québécois plébiscitent dans le sondage Léger, ce n'est pas le volume sonore, c'est son contraire. C'est le journalisme posé dont s'ennuie l'homme de l'aéroport. La vérification, le contexte, la hiérarchie de l'information. Si on souhaite que la réputation des médias québécois continue de croître, je ne crois pas que c'est en offrant plus d'indignation qu'on va y arriver. C'est en proposant autre chose que le vacarme dans lequel on se noie lorsqu'on plonge dans les réseaux sociaux. C'était « Indignez-vous? Vraiment? » un texte de François Cardinal paru le 3 mai 2026 dans la presse.
Une nouvelle technologie augmente le nombre de cœurs pouvant être greffés. Un texte de Jean-Benoît Legault, de la presse canadienne, paru le 30 avril 2026 dans la presse. L'Institut de cardiologie de Montréal dispose maintenant d'une technologie qui permet d'allonger considérablement la période pendant laquelle un cœur peut se trouver à l'extérieur du corps avant une greffe. Cela devrait augmenter le nombre de greffons disponibles et du fait même réduire la longueur des listes d'attente, a expliqué le directeur médical du programme de transplantation et insuffisance cardiaque avancée de l'ICM, le docteur Maxime Tremblay-Gravel. C'est vraiment une excellente nouvelle pour les patients qui sont sur la liste d'attente pour pouvoir avoir accès à des organes qui, parfois, pourraient tout simplement être rejetés parce qu'il n'y a pas de receveur compatible localement, a dit le docteur Tremblay-Gravel. La technologie Organ Care System, OCS, Heart, est une plateforme de perfusion cardiaque ex vivo qui permet de maintenir le cœur dans des conditions physiologiques plus optimales et pendant une période prolongée, a-t-on expliqué par voie de communiqué. Avec la méthode traditionnelle bien connue, l'organe placé dans une glacière, un cœur prélevé ne peut généralement être conservé que pendant 4 à 6 heures. Cette limite réduit fortement le territoire de prélèvement et restreint l'accès à certains greffons, pourtant potentiellement compatibles. L'OCS Heart maintient plutôt l'organe vivant en le perfusant, en l'oxygénant et en le conservant à une température proche de celle du corps humain. Le cœur continue à battre et à vivre pendant son transport, a dit le docteur Tremblay-Gravel, jusqu'au moment où il est placé dans le receveur. Avec ce système-là, on peut aller jusqu'à 8 ou 10 heures. Il n'y a pas de limite dans notre pays, ou même à plusieurs endroits en Amérique du Nord, a-t-il indiqué. Actuellement, a ajouté le docteur Tremblay-Gravel, la distance empêche le Québec d'accepter un organe disponible à l'ouest du Manitoba. Mais concrètement, avec le nouveau système, un cœur prélevé à Vancouver pourrait être greffé à Saint-Jean-Terre-Neuve après plusieurs heures de vol. Cela ne veut pas dire que l'organe arrive intact, a-t-il précisé. Mais le nouveau système limite beaucoup les dommages entre le prélèvement et la transplantation. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le délai moyen d'attente pour une transplantation cardiaque est d'environ 320 jours et le volume annuel de patients en attente se situe autour de 25 à 30 personnes. Au Québec, 898 personnes étaient en attente d'une transplantation en 2025, dont 67 pour un cœur. Le principe premier en transplantation, c'est de ne pas perdre de donneur potentiel. Si on a un organe qui peut être donné, il faut s'assurer que cet organe-là soit utilisé pour pouvoir redonner la santé à quelqu'un, a rappelé le docteur Tremblay-Gravel. Donc, le fait d'enlever presque toutes les limites de distance, ça augmente beaucoup les chances d'avoir des compatibilités, puis d'utiliser tous les organes. C'était une nouvelle technologie augmente le nombre de cœurs pouvant être greffés. Un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 30 avril 2026 dans La Presse.
ChatGPT a violé plusieurs lois canadiennes sur la vie privée. Un texte de Boris Proulx paru le 6 mai 2026 dans Le Devoir. Le populaire robot conversationnel ChatGPT de l'entreprise américaine OpenAI a été développé au mépris des lois canadiennes et québécoises sur la protection des renseignements personnels, conclut une enquête conjointe entre les deux paliers de gouvernement. OpenAI a lancé ChatGPT sans avoir pleinement pris en compte les risques connus en matière de protection de la vie privée, a déclaré le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Philippe Dufresne, lors d'une récente conférence de presse. Son enquête, menée conjointement avec ses homologues du Québec, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, reproche à ce modèle d'intelligence artificielle d'avoir collecté une quantité excessive de renseignements personnels et de ne pas s'être assuré d'avoir le consentement de ses utilisateurs pour le faire. De plus, le défaut de l'IA de commettre des erreurs factuelles, souvent qualifiées d'hallucinations, n'a pas fait l'objet d'un avertissement approprié. Jusqu'à tout récemment, la société n'avait pas procédé à une évaluation visant à vérifier l'exactitude des renseignements personnels figurant dans les réponses de ChatGPT, peut-on lire dans le rapport. Le modèle manquait aussi de procédures pour corriger ou supprimer les données personnelles incorrectement collectées. De manière générale, le lancement de ChatGPT a ouvert la porte à des risques de préjudice envers la population comme de la discrimination fondée sur les renseignements fournis à leur sujet. Le commissaire Dufresne explique que c'est parce que le robot conversationnel recrachait parfois de l'information d'une crédibilité douteuse trouvée sur les réseaux sociaux, mais sans l'indiquer. Au moins 4 lois violées. Le développement de ChatGPT a ainsi contrevenu à la loi fédérale et à au moins 3 lois provinciales, dont la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec. Parmi les recommandations de la présidente de la Commission d'accès à l'information du Québec, Lise Girard, se trouve la demande d'informer les utilisateurs du site que leur clavardage pourrait être utilisé pour entraîner le modèle de l'IA. Elle aimerait aussi que cette option ne soit pas celle activée par défaut. La vice-présidente de la Commission, Naomi Ayotte, a aussi précisé que le consentement des utilisateurs doit être sollicité dans des termes clairs et non pas enfoui dans un long formulaire illisible. Depuis le lancement de l'enquête conjointe fédérale-provinciale, OpenAI dit avoir pris ou avoir l'intention de prendre, plusieurs mesures de conformité. Ces dernières ont satisfait le commissaire fédéral, Philippe Dufresne, qui juge que la plainte fédérale est conditionnellement résolue. La loi canadienne s'applique à OpenAI du fait que son produit est accessible aux Canadiens. L'entreprise est aussi dans l'eau chaude au pays en raison de son possible rôle dans la tuerie de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, après des révélations selon lesquelles la tireuse aurait fait part de macabres scénarios à ChatGPT avant de passer à l'acte. Le rapport de mercredi survient dans un contexte où le gouvernement fédéral n'a toujours pas encore rendu public sa stratégie sur l'IA. Pendant ce temps, le gouvernement de Donald Trump somme le Canada de retirer ses lois encadrant déjà les géants du numérique. C'était ChatGPT a violé plusieurs lois canadiennes sur la vie privée, un texte de Boris Prou paru le 6 mai 2026 dans Le Devoir.
L'œil vieillit lui aussi. Voici comment éviter les conséquences néfastes de 4 maladies oculaires courantes. Un texte de Langis Michaud, paru le 20 avril 2026 dans La Conversation. En tant qu'optométriste, je constate quotidiennement comment vieillir affecte le corps de mes patients, leurs yeux ne faisant pas exception. La perte de la vision et par conséquent de leur autonomie fait partie des plus grandes craintes des personnes âgées. Ceux qui la subissent sont lourdement affectés au plan psychologique. Voici l'histoire d'un couple typique d'une partie de ma clientèle qui cumule plusieurs pathologies à l'œil. Jacqueline et Henri. Ce dernier, ex-conducteur de camions lourds, souffre de diabète depuis plusieurs années. Il s'est oublié dans le travail et n'a pas consulté quand les points noirs et les lignes qu'il voyait déformés se sont multipliés avant que le rideau noir de la cécité ne tombe. Conséquence, il ne peut plus prendre soin de lui et a besoin d'aide au quotidien. La vision de Jacqueline n'est pas top non plus. Elle souffre de cataracte avancée. Elle tarde à se faire opérer car elle ne veut pas laisser Henri sans soins immédiats. Elle craint aussi le développement d'une dégénérescence maculaire. Ses parents en ont été atteints, forme humide, les laissant handicapés visuels à la fin de leur vie. Les personnes âgées en basse vision se sentent démunies, et pourtant, il y a des ressources pour les supporter et optimiser leur vision. Des centres de réadaptation offrent du soutien et des services aux handicapés visuels. Des groupes de soutien permettent de parler à des gens qui vivent la même réalité. Mais il y a surtout des moyens de prévenir les conséquences néfastes du vieillissement sur la santé oculaire. Allons-y voir. La rétinopathie diabétique. Le diabète représente la première cause de cécité évitable. Les lésions apparaissent en moyenne 10 ans après le diagnostic, type 1 juvénile, ou 20 ans, type 2 adulte. Au Canada, 18 % des personnes de 60 à 79 ans en souffrent. Au plan visuel, le diabète affecte la capacité à lire, les mouvements des muscles oculaires et l'altération et ou la prolifération de vaisseaux sanguins qui sont la cause principale de la perte visuelle associée au diabète. Surviennent d'abord des anomalies légères des vaisseaux sanguins, veines boudinées, petites hémorragies localisées, suintements de lipides, etc. Puis, quand la maladie évolue, les nouveaux vaisseaux se brisent et entraînent des hémorragies plus sévères. C'est la forme proliférative qui peut aussi générer un glaucome presque impossible à traiter. La cécité est pourtant évitable, d'abord en consultant l'optométriste régulièrement après l'âge de 45 ans ou dès que l'on se sait diabétique. En effet, 20 % des patients présentent déjà des lésions rétiniennes au moment du diagnostic de la maladie. Les symptômes visuels commencent par une vision parfois claire, parfois floue et qui change de jour en jour. Des points noirs flottant de plus en plus nombreux, voire des taches noires plus stables, la présence de flashs lumineux, la difficulté à reconnaître les couleurs alors qu'on les avait toujours vues, sont tous des manifestations associées au diabète. Henri les avait éprouvées, mais il n'a pas trouvé le temps de consulter en temps. S'il avait agi plus tôt, la maladie aurait pu être dépistée et stabilisée, réduisant les risques de complications. Le glaucome. Henri souffre également de glaucome, mais d'un type particulier, secondaire au néo-vaisseau de son diabète. Il ne s'agit pas du glaucome plus courant, dit à angle ouvert, lequel affecte 5 à 7 % des Canadiens de plus de 60 ans. Ce glaucome, non lié au diabète, représente la seconde cause de cécité évitable au pays. Un fort lien héréditaire existe. Les patients dont les parents souffraient de glaucome sont plus à risque de le développer eux-mêmes. Comme le diabète ou l'hypertension artérielle, le glaucome se développe sans que le patient ne s'en rende vraiment compte. Certes, les contrastes peuvent être plus difficiles à voir, notamment le soir, en éclairage réduit, mais c'est l'étendue de ce que l'on voit de côté, champ visuel, qui se rétrécit lentement. La personne s'habitue à tourner la tête pour voir une chose qui pourtant se situe à côté d'elle. Les patients finissent par le remarquer en conduite lors d'un accident évité de justesse. Ici encore, les conséquences négatives sont évitables en consultant régulièrement l'optométriste. À l'examen, le glaucome sera visible par le nerf optique qui pâlit et devient plus profond. La pression à l'intérieur de l'œil augmente. Les champs visuels mesurés de façon préventive présenteront des défauts. Le diagnostic du glaucome sera établi. Pris en charge à temps, le glaucome peut être bien contrôlé. Certes, il y aura toujours des pertes mineures de champs visuels, mais minimes par rapport à la condition non traitée qui, elle, peut entraîner la cécité. Des médicaments, gouttes, peuvent être prescrits, bien que de plus en plus souvent, favoriser une meilleure circulation des liquides de l'œil se fait en traitant les canaux internes de l'œil au laser, trabéculectomie ou par chirurgie micro-invasive faite par l'ophtalmologiste. Les cataractes. Tout le monde qui vieillit verra son cristallin, la lentille à l'intérieur de l'œil, devenir opaque avec l'âge. C'est la cataracte. La vision devient floue comme une vitre qui se salit tranquillement. Tout d'abord, la lecture et les détails sont vus brouillés, doubles parfois. Puis, les visages qu'on reconnaît moins, les panneaux sur la route difficiles à lire, l'éblouissement qui accompagne toute sortie, de jour comme de nuit. Les cataractes viennent du fait que le cristallin est responsable d'absorber les ultraviolets du soleil afin de protéger la rétine. À force de se faire bombarder, il change son métabolisme et perd sa transparence. La prévention relève d'abord de la personne qui doit notamment veiller à protéger ses yeux contre les rayons UV. C'est d'ailleurs vrai dès l'enfance, soit la période où, en théorie, on est le plus dehors et donc le plus exposé aux rayons nocifs. Les enfants qui ne portent pas de verre solaire adéquat auront des cataractes hâtives. Tout au long de notre vie, qu'il fasse soleil ou non, il faut donc se protéger avec des lunettes solaires ou demander qu'un filtre contre les UV, transparent, soit ajouté à nos lunettes claires. De nombreuses lentilles cornéennes contiennent aussi des filtres UV. L'optométriste peut recommander les produits les plus appropriés. Manger sainement et maintenir une santé sous contrôle aide également. Ces mesures retarderont la cataracte sans toutefois l'empêcher. Quand elle sera visuellement dérangeante, elle devient opérable. La chirurgie est rapide, bien maîtrisée et permet de restaurer la vision en autant que la rétine, fond de l'œil, soit intacte. Les deux yeux peuvent être opérés durant la même procédure. Une cataracte trop mature peut entraîner un temps de récupération post-chirurgie plus long et plus de complications. Dans un monde idéal, toute cataracte serait opérée avant qu'elle ne nuise à la vision. On garderait ainsi une qualité de vie inaltérée. La dégénérescence maculaire. Jacqueline craint de développer la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Les facteurs de risque sont là: hérédité, sexe féminin, origine caucasienne, absence de protection contre les UV. Heureusement, elle ne fume pas et Henri a cessé il y a quelques années. La fumée secondaire peut être aussi nocive que celle que l'on inhale. Par contre, elle ne peut pas lutter contre la première cause de la DMLA, soit le vieillissement, la proportion augmentant avec l'âge. Plus de 2,5 millions de Canadiens en souffrent. Jacqueline ne présentait pas de signes de DMLA sur la rétine à son dernier examen optométrique. Donc, pas de souci immédiat. À long terme, que peut-elle faire? La prise d'oméga-3 sous forme de triglycérides, 800 mg EPA DHA par jour, a été jugée utile dans l'étude AREDS 1. Récemment, des complexes de vitamine B, 6, 9, 12, ont été jugés protecteurs. Une alimentation saine, le contrôle médical de l'hypertension artérielle, du diabète et du cholestérol, ainsi que l'absence de tabagisme, contribuent également à protéger la vision. De nouvelles approches thérapeutiques par micro-courant, électrodes transdermiques, peuvent aider à maintenir la vision en cas de forme sèche de la dégénérescence, alors que l'ophtalmologiste la traitera via des médicaments injectés dans l'œil lorsque celle-ci évolue vers la forme dite humide, soit celle s'accompagnant d'hémorragies et des vaisseaux qui suintent. Prendre soin de ses yeux tout au long de sa vie. Jacqueline et Henri nous rappellent qu'il ne faut pas prendre pour acquis le bon fonctionnement du sens vital qu'est la vision. Le vieillissement joue un rôle important dans le développement de pathologies qui peuvent mener à la cécité. Mais la plupart peuvent être évitées ou retardées en remarquant les symptômes qui apparaissent, en consultant son optométriste régulièrement, en maintenant une hygiène de vie et en contrôlant les problèmes de santé générale qui peuvent nous affecter. C'était « L'œil vieillit, lui aussi ». Voici comment éviter les conséquences néfastes de 4 maladies oculaires courantes. Un texte de Langis Michaud, paru le 20 avril 2026 dans La Conversation.